Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire, ce vendredi 15 décembre 2023. Au Niger, la médiation togolaise dit avoir convenu le contenu et le timing de la transition. Nouvelle attaque imputée à des djihadistes contre un camp militaire au Mali qui aurait fait une soixantaine de victimes. Au Sénégal, une décision de la justice ouvre la voie à une candidature de l'opposant Ousmane Sonko.
Ce que nous pouvons retenir, c'est que le droit a été dit. Le droit a été confirmé. La Cour suprême aurait dû rendre cette décision depuis très longtemps.
Nous aurons un reportage dans la seconde partie de cette édition. Prolongation de 2 semaines du cessez-le-feu impliquant la RDC et le Rwanda à quelques jours des élections en République démocratique du Congo. Reportage également sur la préparation de ces élections et l'ambiance à Goma, en partie magazine de ce journal. Washington pousse Israël à réduire l'intensité de ses opérations à Gaza alors qu'Israël poursuit ses frappes sur l'enclave palestinienne. Dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au Niger, le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, a affirmé à la télévision nationale nigérienne Télésahel avoir travaillé et convenu du contenu, du timing, de la transition avec le Premier ministre, Ali Mahaman Lamine Zein, et le ministre des Affaires étrangères nigérien, Bakary Yahou Sangaré. Nous allons d'ores et déjà présenter au chef d'État médiateur et à la commission de la CDAO ce contenu convenu ensemble, a-t-il ajouté. Dimanche, la CDAO, réunie en sommet à Abuja, a ouvert la voie à un allègement de ses sanctions à l'encontre du Niger, le conditionnant à une transition courte avant un retour des civils au pouvoir. Au Mali, une attaque contre un camp militaire a fait de nombreux morts cette semaine dans le centre du pays. L'armée s'est contentée de faire état hier d'une attaque terroriste qu'elle a repoussée mardi contre le camp de Farabougou, sans aucun bilan humain. Un élu local s'exprimant sous le couvert de l'anonymat pour sa sécurité a indiqué que l'attaque djihadiste contre Farabougou avait fait une soixantaine de morts militaires et civils. Il a aussi fait état de disparus. Le cessez-le-feu impliquant la RDC et le Rwanda a été prolongé de 2 semaines selon un haut responsable américain. Lundi, un cessez-le-feu de 72 heures facilité par les États-Unis avait été annoncé. Les gouvernements du Congo et du Rwanda n'ont pas pu être joints pour une confirmation. Ce nouveau cessez-le-feu intervient à quelques jours des élections générales du 20 décembre en RDC. Rendez-vous donc en seconde partie de cette édition pour un reportage. Le procès de l'ancien médecin rwandais Sosten Mounyemana se poursuit à Paris pour génocide et crime contre l'humanité. Les avocats des parties civiles dépeignent un accusé perdu dans ses mensonges, contestant fermement les accusations. Nous faisons le point avec Rosine Munezero.
Le médecin de 68 ans, aujourd'hui retraité et qui vit dans le sud-ouest de la France depuis septembre 1994, est jugé depuis le 13 novembre devant la cour d'assises de Paris pour génocide et crimes contre l'humanité. Il lui est reproché d'avoir mis en place des barrières et des rondes à Tumba dans la préfecture de Butare, dans le sud du Rwanda, au cours desquelles des personnes ont été interpellées avant d'être massacrées. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Tout au long des 5 semaines d'audience, Sosten Mounyemana n'a eu de cesse de contester ces accusations. Il s'est présenté devant nous comme quelqu'un qui n'a rien vu, rien entendu, rien dit, selon François Epoma, avocat d'une vingtaine de parties civiles. Inlassablement, Sosten Mounyemana a cherché à nous entraîner dans un monde où on n'écoute pas la radio, un monde où on ne regarde pas au dehors. Raï Mathieu Kankis, avocat de la LICRA, pour qui l'accusé s'est tellement enfermé dans ses mensonges qu'il s'y est perdu. Le ministère public doit commencer aujourd'hui ses réquisitions et la défense doit plaider lundi. Le verdict est attendu mardi.
La Belgique a refusé l'asile à 8 jeunes handballeurs mourundais et a renvoyé 6 d'entre eux en Croatie, leur pays d'entrée dans l'Union européenne où ils avaient été brièvement signalés disparus par la police l'été dernier en pleine compétition sportive. Alexandrine Rolognon.
Notre pays subit plus de pression que beaucoup d'autres. Il n'est pas acceptable que nous, en Belgique, devions accueillir des personnes dont d'autres pays sont responsables, a martelé Nicole Demore, secrétaire d'État belge à l'asile et la migration. 8 handballeurs du Burundi sont ciblés par une mesure d'expulsion après le rejet de leur demande d'asile. 2 d'entre eux ne se sont pas présentés au moment du départ du vol et seuls 6 ont pu être renvoyés vers la Croatie mardi. Ces membres de l'équipe nationale du handball du Burundi devaient participer en août dernier au championnat du monde des moins de 19 ans en Croatie. La veille d'un match, ils avaient subitement disparu de la cité universitaire de Rijeka où ils étaient hébergés. Les athlètes avaient pour la plupart pris la direction de la Belgique qui a renvoyé 6 d'entre eux en Croatie, pays membre de l'Union européenne et de l'espace Schengen, où ces jeunes Burundais avaient obtenu un visa de court séjour pour leur tournoi.
Les réformes mises en place au Nigeria par le nouveau président Bola Ahmed Tinubu sont essentielles et vont dans la bonne direction selon la Banque mondiale. Il faut néanmoins prendre des mesures supplémentaires selon elle, notamment remédier au manque de transparence sur les revenus pétroliers. L'ONG Reporters sans frontières demande aux autorités guinéennes dominées par les militaires de mettre instamment un terme à la série de mesures de restrictions prises à l'encontre de certains médias privés. RSF dénonce des atteintes à la liberté de la presse d'une ampleur considérable.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis appellent à la cessation rapide des hostilités entre Israël et le Hamas, a affirmé un porte-parole de la Maison-Blanche, exprimant le désir de mettre fin au conflit dès que possible. Eric Manirakiza.
Au cours d'une visite en Israël, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a soulevé des questions cruciales concernant l'offensive israélienne sur le territoire palestinien, notamment des inquiétudes sur les pertes civiles. Bien que désireux de voir une résolution rapide, le porte-parole John Kirby a reconnu qu'un cessez-le-feu immédiat semblait improbable pour le moment. Il a également souligné que Washington ne dictait pas les conditions à Israël, en soulignant la cohérence du calendrier énoncé par le ministre de la Défense israélien avec les déclarations antérieures des responsables du pays. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a dit prévoir une durée prolongée de la guerre contre le Hamas à Gaza. Israël affirme la nécessité et la complexité de détruire des infrastructures hostiles existantes. Jake Sullivan se rend ce vendredi dans la ville de Ramallah, en Cisjordanie occupée, pour des discussions avec des dirigeants de l'autorité palestinienne. Le secrétaire américain à la défense est aussi attendu en Israël.
Le Congrès américain a adopté hier un budget faramineux de 886 milliards de dollars pour la défense des États-Unis en 2024, prolongeant un dispositif de surveillance électronique internationale très utilisé par le renseignement américain. Nous écoutons Jean-Roger Bion.
Adopté à la Chambre des représentants après un vote au Sénat mercredi, ce budget en hausse d'environ 3% par rapport à celui de 2023 prévoit plusieurs milliards de dollars pour renforcer la position des États-Unis en Asie-Pacifique et contrer l'influence de la Chine. Le document de plus de 3000 pages doit maintenant être ratifié par le président Joe Biden. Il prolonge aussi un programme d'aide militaire à l'Ukraine permettant le déblocage progressif de 300 millions de dollars pour Kiev. Ce montant est bien loin des 61 milliards de dollars réclamés par le président américain. La loi de défense étend de plusieurs mois un dispositif législatif de surveillance électronique internationale. Ce programme permet aux services de sécurité américains de mener des programmes de surveillance électronique, y compris via la consultation de courriers électroniques de ressortissants non américains à l'étranger, sans demander de mandat judiciaire systématique. Le budget adopté par le Congrès augmente par ailleurs de plus de 5% les salaires du personnel de défense.
Washington appelle Pékin à cesser son injuste politique économiste dirigiste. Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, a déclaré que cette politique pénalise l'économie chinoise et les entreprises aux États-Unis. Elle s'est dit favorable à une gestion responsable des inévitables désaccords entre les deux puissances. Les dirigeants des 27 reprendront en début d'année prochaine leur discussion sur un nouveau soutien budgétaire de l'Union européenne à l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré Charles Michel, le président du Conseil européen, après le veto du Premier ministre hongrois, Viktor Orban. La Hongrie a mis son veto à ce paquet de 50 milliards d'euros de prêts et de subventions qui nécessite l'unanimité des États membres. Le Guyana et le Venezuela sont tombés d'accord pour ne pas utiliser la force l'un contre l'autre dans le cadre de leurs différends historiques sur le territoire de l'Essequibo lors du sommet entre leurs chefs d'État jeudi à Saint-Vincent et les Grenadines. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Rosine Mounezero.
La Banque mondiale dit qu'elle reconnaît les efforts du gouvernement d'Abuja pour améliorer la situation économique du Nigeria, mais insiste sur la nécessité de poursuivre les réformes. Il est temps de passer le cap en mettant en place des mesures fiscales et monétaires à court et moyen terme, recommande la banque. Abuja table sur une réduction de l'inflation à 21,4% et une croissance d'au moins 3,76% en 2024. Les prix à terme du cacao à New York ont atteint en début de semaine leur plus haut niveau depuis 46 ans, alors que les problèmes de récolte en Afrique de l'Ouest ont resserré les approvisionnements mondiaux. Les arrivées de cacao dans les ports du Ghana ont diminué d'environ 50% sur un an cette saison, tandis que celles de la Côte d'Ivoire ont diminué de plus de 35%. La société sud-africaine Kumba Iron, filiale du géant minier anglo-américain, veut réduire sa production au cours des trois prochaines années. Cette décision est motivée par le fait que Transnet, l'entreprise publique de transport de marchandises, a du mal à acheminer les minéraux et autres matières premières vers les marchés d'exportation en raison de la pénurie de locomotives, du vol de câbles et des actes de vandalisme commis sur son infrastructure. Cette situation a coûté aux exportateurs des milliards de rands de recettes potentielles.
Et maintenant, la page sport est présentée ce matin par Nanit Talani. Bonjour Nanit.
Bonjour Claire, bonjour à tous.
Et nous démarrons par la CAF de la vente au guichet des billets pour la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy Côte d'Ivoire 2023.
À 30 jours du coup d'envoi de la compétition, cette vente permettra aux habitants d'acheter des billets pour la compétition qui débute le 13 janvier 2023. La vente de billets au guichet aura lieu dans 12 villes et villages de Côte d'Ivoire. Des points de vente se trouvent à Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, San Pedro, Grand Bassam, Cocody, Plateau, Biggerville, Songon, Anyama, Yopougon et Adjamé. Les prix varient entre 5 000, 10 000 et 15 000 francs CFA suivant les catégories. Plus de 30 000 billets ont déjà été vendus depuis le lancement de la vente de billets en ligne le 9 novembre 2023.
On connaît les trois finalistes du prix de la meilleure joueuse FIFA 2023 qui sera dévoilé à Londres le 15 janvier 2024.
L'Espagnole Aitana Bonmati, 25 ans, sa compatriote Jennifer Hermoso, 33 ans, ainsi que la Colombienne de 18 ans, Linda Caicedo, sont les trois finalistes pour ce prix. Aitana Bonmati, qui joue pour Barcelone et l'équipe nationale d'Espagne, a déjà, entre autres, le ballon d'or de la Coupe du Monde féminine, le titre de joueuse de l'année de l'UEFA et le ballon d'or à son palmarès cette année. Sa compatriote, Jennifer Hermoso, joue pour le CF Pachuca et l'équipe nationale féminine d'Espagne. C'est la meilleure buteuse de tous les temps d'Espagne, qui a d'ailleurs fait partie de l'équipe championne de son pays lors de la Coupe du Monde féminine FIFA 2023, où elle a également reçu le ballon d'argent. Enfin, l'icône colombienne Linda Caicedo, 18 ans, la plus jeune du trio des nominés, joue pour le Real Madrid et l'équipe nationale féminine de Colombie. Elle a participé à trois Coupes du Monde féminine de la FIFA en l'espace d'un an, remportant des prix lors des finales des moins de 17 ans et seniors, ainsi que le ballon d'or de la Copa América féminine.
La FIFA vient aussi de dévoiler les trois finalistes pour son prix de meilleur entraîneur des équipes féminines pour 2023, qui sera aussi connu lors d'une cérémonie à Londres le 15 janvier 2024.
Jonathan Giraldez, Emma Hayes et Sarina Wigman sont les trois finalistes pour ce prix. L'Espagnol Jonathan Giraldez, le seul homme du trio, est l'actuel manager du FC Barcelona Femini. les conduisant à un quatrième titre consécutif, ainsi qu'à la Champions League de l'UEFA Femmes.
Merci Nanit.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Au Sénégal, de nouveaux développements interviennent dans l'affaire judiciaire d'Ousmane Sonko. Le tribunal hors classe de Dakar a confirmé l'annulation de sa radiation des listes électorales. Cette décision rouvre ainsi la porte à une éventuelle candidature de l'opposant à l'élection présidentielle prévue pour le mois de février. Malgré sa situation carcérale, il a jusqu'au 26 décembre pour collecter les parrainages. Suivez cet élément de notre correspondant à Dakar, Wani Johnson Sambou.
Je ne vais pas cacher ma satisfaction, qui est celle de tous les Sénégalais, en tout cas d'une écrasante majorité des Sénégalais.
La joie des avocats d'Ousmane Sonko en dit long sur l'effet surprise du verdict. Après la frustration de la Cour suprême, ils ont vu ce jeudi le tribunal hors classe de Dakar confirmer l'annulation de la radiation de l'opposant sénégalais prononcée par un jugement d'octobre. Maître Cyril Lederly savoure.
Ce que nous pouvons retenir, c'est que le droit a été dit. Le droit a été confirmé. La Cour suprême aurait dû rendre cette décision depuis très longtemps. Elle a préféré refiler le bébé avec l'eau du bébé. Maintenant, le bébé a été encore bien lavé et c'est la réinscription d'Ousmane Sonko sur les listes électorales.
Du côté des partisans d'Ousmane Sonko, c'est aussi le grand soulagement.
D'abord, c'est une surprise et en même temps, je suis content. Les patriotes, ils se sont déjà remobilisés parce qu'on était dans les parrainages avec le candidat Bassirou Diomaye Faye. On a remobilisé. D'ici peu de temps, vous allez entendre qu'on a des millions de parrains. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de parrainer le candidat Ousmane Sonko avec le parrainage de Julie et on passe à autre chose.
Chez les avocats de l'État, en revanche, l'onde de choc a été grande. Mais ils ont tenté de minimiser ce verdict rendu. Maître Elhadj Diouf prévient déjà que la bataille est loin de son épilogue.
Moi, j'ai envie de rire quand face à l'inintelligence et à la perte de mémoire, on jubile aujourd'hui comme on avait jubilé à Ziguinchor, oubliant que la Cour suprême ne peut pas se contredire et que quand le juge inférieur défie le juge supérieur, sa décision est toujours annulée. On va faire un plan en cassation comme on l'avait fait à Ziguinchor.
En attendant, Ousmane Sonko et ses partisans jubilent. L'opposant actuellement en prison peut donc lancer sa campagne de collecte des parrainages. Il a jusqu'au 26 décembre pour déposer sa candidature. Wahani Johnson Sambou, Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24. Au Togo, le cadre permanent de la concertation nationale des acteurs politiques rassemblant le parti au pouvoir et certaines formations de l'opposition formule des recommandations pour améliorer le cadre électoral en prévision des élections législatives et régionales du premier trimestre 2024. Les discussions à Lomé cette semaine se concentrent sur le redécoupage territorial, la gestion des listes électorales et le renouvellement des institutions. De Lomé, notre correspondant Kossi Wousou.
Le découpage électoral qui fait couler beaucoup d'encre et de salive est le premier sujet discuté par les participants aux travaux du cadre permanent de concertation CPC. Les propositions n'ont pas manqué. Maître Tchassona Traoré, président du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement, propose un découpage en lien avec les communes.
Je crois que nous sommes allés sur une proposition que notre alliance a faite sur revenir, élargir le nombre de députés à l'Assemblée nationale sur la base de ce que nous avons comme commune. On a 117 communes. Il faut aller sur cette base-là de sorte qu'il y ait au moins un député par commune pour que la représentation du pays soit équitable.
Si un consensus semble se dégager sur ce sujet, Kwame Manti de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, souhaite s'en tenir aux dispositions constitutionnelles.
Nous sommes heureux que cette question ait retenu l'attention du CPC et qu'on a accepté d'en parler en espérant que ce problème va être réglé en tenant compte du principal critère qui est la démographie. Il ne serait pas bien qu'un homme important de la population désigne peu de députés, alors qu'un nombre moindre désigne plus de députés, étant tous des citoyens. Évidemment, il y a d'autres critères qui peuvent entrer en jeu, mais celui que la Constitution nous recommande est la démographie. Nous y veillerons pour que ça soit bien fait.
Pour Paco Madjourouvi, l'actuel président du CPC, le critère démographique à lui seul ne saurait suffire pour le découpage électoral.
Je dois dire que des propositions ont été faites pour plus de représentation de tous les territoires de notre pays, mais pas que sur la base de la démographie. Nous ajoutons qu'à côté de la démographie, il y a aussi l'éthique, il y a la solidarité entre les territoires et que tous ces éléments doivent être pris en compte pour arriver à quelque chose d'acceptable pour nous tous.
Achole Akleso, le secrétaire exécutif du parti au pouvoir Union pour la République Unir, précise tout de même que c'est le gouvernement qui détient le dernier mot sur ces genres de questions.
Le découpage n'est pas de la compétence ou des prérogatives du CPC. Ce que nous faisons au CPC, ce ne sont que des propositions au gouvernement. Nous formulons le vœu que ça soit pris en compte, mais rien ne contraint le gouvernement à transcrire exactement ce que nous avons retenu. Mais ce qui est important à souligner aussi, c'est que le chef de l'État était toujours attentif à toutes les propositions qui ont été faites par le CPC.
Les travaux du CPC vont se poursuivre sur d'autres sujets comme le fichier électoral et le renouvellement des institutions de la République. Kossi Wousou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Lomé sur 102.3 FM. À seulement 5 jours des élections générales en République démocratique du Congo, la tension s'accroît dans la province du Nord Kivu. Les candidats à divers échelons se mobilisent activement en intensifiant leur campagne à Goma, tandis que la société civile maintient son scepticisme quant à la tenue effective de ces élections, malgré les assurances de la CENI. Reportage de Zanem Neti Zaidi, notre correspondant à Goma.
Débutée timidement, la campagne se poursuit, tambour battant à Goma en cette dernière semaine. Les différents candidats aux législatives nationales, provinciales et aux municipales sillonnent les rues de la ville avec des caravanes motorisées pour solliciter les votes des habitants au moment où la coordination provinciale de la société civile, chapeautée par John Banyene, doute de la tenue du scrutin car selon lui, jusque-là, aucun matériel n'est déployé dans des centres de vote. John Banyene, société civile.
Il y a toujours la campagne qui continue, mais quand on analyse un peu, quand on demande les agents, surtout de la CENI, pour ce qui concerne le déploiement de matériels électoraux, nous croyons qu'il y a un souci à ce niveau. Mais nous, comme population, bon, nous sommes prêts d'aller aux élections malgré les frustrations qu'il y a de la guerre, mais avec beaucoup de doutes jusque-là, voilà que nous sommes à 7 jours prêts, mais on ne sait pas si les élections auront lieu ou pas.
Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, reconnaît la persistance de certaines difficultés financières à quelques jours des élections, rassure de la détermination de son institution à respecter les obligations constitutionnelles. Denis Kadima, président de la CENI.
Les moyens ont été reçus, c'est pas la totalité, mais avec ce que nous avons, nous pouvons très bien avancer. Je sais ce que sont nos besoins, je sais comment nous allons nous y prendre. Et n'oubliez pas que l'une des choses que nous voulons aussi réaliser, c'est habituer les Congolais à respecter les dates telles que prévues dans la Constitution. Et s'il y a une structure qui doit aider à ça, c'est d'abord la CENI.
L'une des difficultés majeures, c'est les transports de matériel de vote dans tous les coins du pays, une charge qu'est la mission des Nations Unies en RDC, Monisco, à travers sa chef Bintou Keïta, a promis faire sienne. Bintou Keïta, patronne de la Monisco.
Pour soutenir la préparation des élections générales qui seront à la fois présidentielles, législatives au niveau national et provincial et aussi locales pour la première fois dans le pays, ce que je trouve absolument fantastique. Toute la mission est mobilisée pour aider au déploiement de matériel, équipement pour le jour du scrutin, donc le 20 décembre, mais aussi sur surtout, ce que nous faisons, c'est d'essayer d'avoir une harmonisation des messages qui doivent être passés et une attention particulière en ce qui concerne le caractère apaisé des élections.
Ces élections vont se dérouler dans un contexte particulier pour la province du Nord Kivu, qui reste sous état de siège et dont les territoires de Rutshuru et Masisi sont en partie occupés par les rebelles du M23 et ne pourront pas voter. Zanem Netizaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ici à Washington, la Chambre des représentants à majorité républicaine a voté hier soir en faveur d'une enquête pour la mise en accusation formelle du président américain Joe Biden par 221 voix contre 212 en raison de son implication présumée dans les relations commerciales de son fils. La Maison-Blanche nie tout acte répréhensible de la part du président. Nathalie Barge relate un compte-rendu de Catherine Gibson, correspondante de La Voix de l'Amérique au Congrès.
Les républicains ont déclaré que le vote marque une étape importante dans leur enquête de plusieurs mois sur l'implication de Joe Biden dans les relations commerciales à l'étranger de son fils Hunter Biden. Jim Jordan, président de la commission judiciaire de la Chambre.
C'est une histoire vieille comme le monde. Vous avez un homme politique qui fait certaines choses, ses actions, qui profite ensuite financièrement à sa famille, et puis on s'efforce de le cacher.
Cette nouvelle étape donne plus de pouvoir aux républicains pour obtenir des documents pour l'enquête. James Comer, président de la commission de surveillance de la Chambre.
Il est très clair que la Maison-Blanche fait obstacle à notre enquête. Je pense que le message d'aujourd'hui est très fort et clair. Nous attendons d'eux qu'ils s'y conforment.
La Maison-Blanche a déclaré avoir déjà accédé aux demandes des républicains. Karine Jean-Pierre, attachée de presse de la Maison-Blanche.
Ils ont obtenu 100 000 pages de documents. Ils ont interrogé des témoins pendant 40 heures. De tout ce qu'ils ont demandé, au lieu de faire le travail du peuple, toutes leurs fausses allégations ont été réfutées inlassablement.
Hunter Biden, qui a refusé de témoigner à huis clos, a affirmé ne jamais avoir bénéficié des relations politiques de son père.
Au pire de ma dépendance, j'étais irresponsable financièrement. Mais suggérer que c'est un motif pour une enquête de destitution est absurde.
Les démocrates de la Chambre estiment que cette affaire est politiquement motivée à l'approche de l'élection présidentielle de 2024. Écoutons le député démocrate Robert Garcia.
La majorité fera tout ce qui est en son pouvoir pour que Donald Trump soit réélu. Et nous savons tous ce qui dirige ce processus.
Le président de la Chambre, Mike Johnson, pourrait être réticent à procéder à un vote pour la mise en accusation de Joe Biden. Les républicains disposent d'une faible majorité. Et une telle décision pourrait poser un risque politique pour les circonscriptions divisées à l'approche des élections.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wenpanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute la rédaction qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Morin-Gibourg. À la réalisation, Lionel Gaïma. À la console, Charleston Mac. Ainsi va Le Monde Aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, X, anciennement Twitter, et Instagram bien sûr. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Radio Mwangaza, Lubumbashi, 102.1 FM, Niamey. Radio Tropique, 99.8 FM, Korogo, Côte d'Ivoire. Et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui,